Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue sur ce sujet de la canonisation. Donc l'Église canonise, elle déclare saint, elle peut déclarer sainte des personnes. D'une part, le mot canoniser, ça vient d'où? De canon, ça veut dire qu'elle dit que les gens sont canons?
Non, un canon, c'est comme dans le code de droit canonique, c'est-à-dire il y a des articles, hein, et donc elle fait une sorte de déclaration officielle, si vous voulez, un canon c'est une déclaration officielle, pour dire que quelqu'un est officiellement, je dirais, peut recevoir un culte, le culte des saints, participer au culte des saints, qui a toujours été une des grandes traditions de l'Église. Depuis l'Église des martyrs, on a vénéré des saints et on les a donc désignés en les distinguant du reste du peuple de Dieu, sans préjudice pour le reste de ce peuple de Dieu, qui peut très bien avoir été saint, mais sans avoir pour autant proposé un exemple spécifique dans leur sainteté dont l'Église a besoin. L'Église a besoin non seulement que tout le monde soit saint, et ça c'est son objectif général, universel je dirais, et en même temps elle a besoin de modèles pour nous rappeler Jésus à l'œuvre, parce que Jésus est le modèle des modèles, le saint des saints, mais nous sommes par l'Esprit Saint devenus participants de l'Esprit, participants du Christ, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et les saints, c'est ça, ce sont ceux qui ont été plus participants du Christ, participants de l'Esprit, et qui aident à atteindre nous-mêmes la sainteté en étant attirés par ces modèles. Ces modèles attirent.
Mmh. Oui, donc comme Carlo Acutis récemment, ou Charles de Foucault, l'Église dit, regardez, quand on est enfant, on peut devenir saint. Regardez, quand on a une vie de pêcheur, on peut devenir saint.
Voilà, on peut être un geek, c'est-à-dire un spécialiste de l'informatique, et être saint.
Quoi. Et
c'est
être
quand
saint,
même
oui, oui.
Frappant par rapport à tous les jeunes qui sont sur leur computer, sur leur iPhone et autres engins, qui sont complètement obnubilés par ça. Et tout à coup, voir un jeune homme qui, en Italie, est mort en situation de sainteté, qui a fait un site magnifique sur les miracles eucharistiques et qui s'est dépensé pour l'Église et pour Jésus-Christ, et ben voilà, on peut être saint quelles que soient les époques de l'histoire. Mmh. On n'a pas besoin de faire remonter la sainteté seulement à l'époque des premiers martyrs ou des tout premiers apôtres.
Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de voir, on a quelques vidéos sur Carlo Acutis, quand on voit ça, on est édifié, et puis on a envie d'avancer, nous. On se dit, bah, si lui y est arrivé, on peut aussi avancer dans la sainteté.
Exactement, et il y a différentes gradations quand on voit les images du Padre Pio avec ses stigmates, on voit des échelles très différentes, hein, entre des formes de sainteté très différentes. On a gardé le souvenir ainsi de beaucoup de personnes qui ont été canonisées, comme Jean-Paul II. Par exemple, le nombre de reportages qu'on a sur Jean-Paul II, c'est impressionnant. Et bien, se dire, ben, cet homme était saint, cet homme a reçu les grâces de sainteté pour notre édification, pour avancer, ou Mère Teresa de Calcutta, ou ceux qui ont vraiment été jusqu'au bout. Et puis elle a écarté ceux qui étaient un peu moins édifiants, qui peut-être ont été sauvés, nous ne savons pas. Hein. Mmh. Au dernier moment, tout est entre les mains de Dieu, mais regardez ceux qui sont morts comme l'abbé Pierre, on le remet à la miséricorde de Dieu, mais on ne le prendra jamais comme un modèle de sainteté, c'est clair. Pourtant, il a fait des belles choses, mais sa vie était ambiguë.
Quand une personne est déclarée sainte, donc canonisée par l'Église, on dit que ça veut dire que l'Église est sûre et certaine que cette âme maintenant morte est devant Dieu et avec Dieu et agit depuis le ciel pour les hommes, c'est ça?
Oui, l'Église engage une part de son infaillibilité dans, c'est ce que disait Benoît XIV, un pape de la, donc ancien déjà, mais qui a considéré parmi les actes infaillibles de l'Église, il y a la déclaration de sainteté. C'est pour cela que l'Église est prudente et ne prend les moyens pour étudier d'abord la vie du saint dans sa complétude jusqu'au moment avant sa conversion et à partir de sa conversion, et voit s'il y a exercice héroïque des vertus, c'est ce qu'on appelle faire une position d'un saint, et puis après, une fois que la position est faite et que le Saint-Siège a reconnu que vraiment ces vertus ont été pratiquées d'une manière héroïque, on dit que ce fidèle est un serviteur de Dieu, et on attend après, eh bien, les étapes suivantes, qui est en quelque sorte la réponse de Dieu. Il faut un miracle pour la béatification, qui soit authentifié, c'est-à-dire que on ait prié vraiment un saint avec ardeur et qu'on ait vu un changement du tout au tout d'une manière instantanée, d'une manière vraiment extraordinaire. Un miracle, par exemple, de guérison. Hein. Une personne est quasi mourante et elle se relève après cette intercession guérie. La médecine ne peut pas l'expliquer, mais elle peut constater qu'avant, la personne était à deux doigts de mourir et qu'après, tout à coup, elle est en bonne santé. Ça, scientifiquement, on peut le prouver et l'Église peut l'interpréter comme un miracle avec l'intercession de celui pour lequel on a prié au moment où est advenue cette transformation. Donc, premier miracle, miracle de la béatification. Et l'Église ne se contente pas d'un seul miracle, elle demande qu'il y ait un deuxième miracle pour la canonisation. Alors, ben, ça fait quand même beaucoup de marge, je dirais, pour que quelqu'un pour lequel on aurait peut-être souhaité qu'il soit sur les autels, qu'il soit canonisé pour ne pas l'être, parce que les étapes sont quand même un entonnoir assez étroit. Hein, parce que d'abord, arriver à la position, il faut une grosse enquête, il faut beaucoup de moyens, et puis que cette enquête débouche sur l'héroïcité des vertus, c'est pas toujours évident. On peut très bien avoir une vie, je dirais, belle, mais pas nécessairement vertueuse au niveau des vertus héroïques. Il faut qu'il y ait quelque chose en plus et que ce soit démontré, je dirais, par des historiens, des théologiens qui aient vraiment analysé au peigne fin les choses. Il y a même au cours d'un procès ce qu'on appelle un promoteur de justice, on appelait ça autrefois l'avocat du diable, et qui essaie de contredire la position pour montrer que peut-être on s'est aventuré sur des hypothèses qui n'étaient pas fermement prouvées. Donc il y a vraiment un vrai procès canonique. Et si il débouche positivement, être serviteur de Dieu, ce n'est pas encore l'étape ultime, puisque il peut très bien ne pas y avoir de miracle. Et donc le fidèle est considéré comme serviteur de Dieu. Il n'est pas pour autant déclaré bienheureux, ni non plus saint après le deuxième miracle.
Ah oui. Et donc il y a sûrement beaucoup de gens au ciel qui sont saints, parce que s'ils sont au ciel, ça veut dire qu'ils sont saints, mais qui ne seront pas canonisés, ou bien parce que Dieu n'a pas voulu que par leur intercession il y ait des miracles sur la terre, ou bien aussi parce que l'Église estime que leur exemple portera pas particulièrement d'effet dans le monde.
Exactement. Quand, par exemple, dans une congrégation, dans un ordre religieux, il y a déjà le fondateur qui est saint, et que ceux qui ont suivi la règle du fondateur deviennent à leur tour saints, je dirais, le modèle est déjà donné dans le fondateur, donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Il faut quelque chose en plus. Et c'est le cas, par exemple, des carmes. Nous voyons bien Simon Stock, les premiers qui donnent un exemple très caractéristique de la sainteté au Carmel. Mais il faut un plus, quand Sainte Thérèse d'Avila fait ses fondations, a ses révélations sur les demeures de Dieu, etc., ou Saint Jean de la Croix dans son enseignement sur la vie mystique, il y a un plus qui est donné, ou c'est la nouvelle petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus, ou la prédication sur la miséricorde de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Il faut un plus qui soit donné comme modèle par rapport déjà à la règle qui a été suivie et qui a déjà ses modèles de sainteté. Donc je dirais que ça exclut beaucoup de personnes. Quand on rentre dans une vie religieuse classique, d'une certaine manière, on renonce pour la plupart à être un jour canonisé, puisqu'on a déjà le saint fondateur.
Ah oui, très bien. Et l'Église déclare sainte des personnes, parce qu'elle le sait, parce qu'elle a fait des enquêtes, et est-ce qu'elle peut déclarer des personnes en enfer, des gens où elle sait qu'elle est sûre qu'ils sont en enfer?
Alors non, parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume des saints, et l'enfer, c'est le royaume du diable, et ça ne nous intéresse pas. Voilà, l'Église, une fois pour toutes, a dit: ce n'est pas notre domaine, ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas ma mission de déclarer des personnes damnées. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, cette possibilité. Cette fois, dans l'Évangile, on parle de la bouche même de Jésus, de cette description de l'enfer, là où il y a les grincements de dents et où il y a cette situation donc terrible d'éloignement de l'amour. Donc l'enfer existe, et des démons, nous le savons bien, ont suivi le diable, c'est dans la révélation, et Jésus annonce qu'il y aura malheureusement des personnes qui seront écartées de sa droite et de l'entrée dans son royaume. Donc l'Église sait qu'il y a des damnés, mais elle ne les désigne pas, elle reste dans l'ignorance voulue de l'espérance.
Ah oui. Merci frère Edouard, à bientôt.
À bientôt.